Et sur France Inter, il est 19h. Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Les zombies après les fantômes. Jim Jarmusch ouvre ce soir le festival de Cannes. 20 ans après Ghost Dog, présenté sur la Croisette. L'équipe monte les marches dans les prochaines minutes. Celle d'Inter est déjà sur place, en smoking et en robe de soirée évidemment. Les héros du commando Hubert dans la cour des Invalides. Hommage national à Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello. Mort au Burkina Faso pour libérer 4 otages. Emmanuel Macron salue le sacrifice suprême, vous l'entendrez. Au sommaire également ce soir, un médecin de la police au tribunal pour agression sexuelle. Quand Éric Zemmour voulait mener la liste Rassemblement National aux européennes, peut-être de nouvelles photos prises par Rimbaud en Éthiopie. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien ce soir, on parle d'accès au travail, d'accès au transport, d'accès à l'école, d'accès au logement. Des handicapés qui sont venus dire leur déception après 2 ans d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous encore à la traîne? En quoi le sommes-nous? Est-ce que quand même des progrès ont été faits? Être handicapé en France aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? On attend vos appels au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est peut-être l'escalier le plus célèbre du monde, en tout cas le plus observé dans les 15 prochains jours. 24 marches recouvertes d'un tapis rouge pour accueillir stars et promesses du 7e art. Le festival de Cannes commence ce soir. Cérémonie d'ouverture dans une demi-heure présentée par l'élégant et perché oiseau de nuit des dimanches d'Inter, Édouard Baird, pour une 72e édition qui mélange en compétition, on va en parler, des habitués déjà palmés et de nouveaux noms. Tous montent ou vont le faire bientôt. Les fameuses marches du Palais du Festival. Des festivals. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Vous êtes sur place et vous attendez d'abord l'équipe du film de Jim Jarmusch qui est projetée ce soir en ouverture et en compétition.
Ils seront les derniers à monter les marches du Palais des Festivals. D'ici quelques minutes, Jim Jarmusch entouré de ses comédiens fétiches, Bill Murray, Tilda Swinton, habillé par son ami le créateur Aider Ackerman, Adam Driver, ainsi que plusieurs membres de ce casting à déterrer les morts. Chloé Sevigny, Selena Gomez, Sarah Driver ou encore le mannequin Luta Sabat, tous annoncés ce soir en tenue de gala. Pas de zombie walk donc en perspective, ni de happening, et un absent de taille, le sulfureux Iggy Pop, qui ne gravira pas cette fois-ci les marches à moitié nu sous son smoking. Beaucoup d'attentes en tout cas autour de ce film de zombies. La météo a décidé elle aussi de s'en mêler, le ciel depuis quelques minutes s'est obscurci, un peu comme si la Terre était en train de sortir de son axe. Les spectateurs vont le découvrir ce soir. The Dead Don't Die est une comédie qui nous annonce la fin du monde. Le film, c'est une nouveauté visible par tous dès aujourd'hui et projeté en même temps que la cérémonie d'ouverture dans plus de 600 salles ce soir. Alors d'autres moments sont évidemment très attendus ce soir, notamment l'arrivée du jury d'Alejandro Iñárritu, le président cette année qui sera entouré d'un jury totalement paritaire. C'est une nouveauté également. 4 femmes, 4 hommes, parmi lesquels 2 Français. Le réalisateur Robin Campillo, Grand Prix 2017 du festival avec 120 battements par minute, et le scénariste Anki Bilal. Pour cette édition XXL, il y aura évidemment aussi beaucoup de pointures annoncées. Alain Delon, des vedettes américaines, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Quentin Tarantino. Pour le tapis rouge le plus attendu de cette édition, Once Upon a Time in America, ce sera mardi prochain. C'est la première fois que les 2 comédiens se retrouvent ensemble. Le film a été ajouté à la dernière minute à la compétition, à quelques jours seulement, tout comme la venue de Sylvester Stallone. En attendant tout cela, eh bien, la montée des marches se poursuit avec l'arrivée, il y a quelques minutes, du ministre de la Culture, accompagné des enfants d'Enes Varda. Elle figure cette année en haut de l'affiche.
Reprenez votre souffle. Merci Corinne Pellissier. En direct, des marches du Palais, du Festival, du Film de Cannes avec Georges Thau. Merci à tous les deux. On vous suivra également sur franceinter.fr avec notamment un reportage sur les rapports longtemps houleux entre Alain Delon et le Festival de Cannes.
Allez, 20 bérets verts, un visage couvert d'un foulard pour rester anonyme.
20 membres du commando Hubert pour porter les cercueils et les décorations de leurs frères d'armes, Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello, morts la semaine dernière dans le nord du Burkina Faso pour sauver 4 otages, dont 2 Français. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
Ils sont morts en héros à 10 ce matin, Emmanuel Macron, lors de l'hommage national.
Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello, c'était selon le président des soldats hors normes, comme peu d'armées dans le monde ont la chance d'en compter.
La nation tout entière, qui en ce jour vous rend hommage, se souviendra. Vos 2 noms seront gravés au monument aux morts de vos communes. Et la nation saura que vous avez fait votre devoir. Car pour les peuples libres, pour les grandes nations, les noms des héros ne s'effacent jamais.
Emmanuel Macron a aussi rendu hommage au guide béninois des ex-otages Fiacre Gebedji assassiné par les djihadistes ainsi que la dernière otage française dans le monde.
Je pense en cet instant à Sophie Petronin, toujours aux mains de ses ravisseurs. Nous ne l'oublions pas. La France ne l'oublie pas. Car la France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants. Quelles que soient les circonstances, et fût-ce à l'autre bout de la planète, ceux qui attaquent un Français doivent savoir que jamais notre pays ne plie.
Avec ces mots, Emmanuel Macron a tenté de balayer toutes les polémiques, notamment celle sur l'accueil des ex-otages samedi à Villacoublay.
Emmanuel Macron a aussi cité le commando Kiefer dans son discours. Merci Cyril Graziani, les 177 Français qui ont débarqué le 6 juin 1944, dont un certain Augustin Hubert, tué le jour J et qui donnera ensuite son nom à l'un des commandos qui composent l'élite de l'armée française, les forces spéciales. La lutte contre le terrorisme n'est pas encore terminée. On apprend que 4 catholiques sont morts lors d'une procession religieuse hier dans le nord du Burkina Faso, toujours après l'attaque d'une église dimanche. Et puis en France, 5 nouvelles arrestations aujourd'hui à Strasbourg dans l'enquête sur l'attentat du marché de Noël qui a fait 5 morts et 11 blessés en décembre. Des arrestations pour des vérifications liées aux armes utilisées par Chérif Chekat. Lui est au tribunal pour agression sexuelle, un médecin de la police comparé à Reims pour 10 agressions sur des adjoints de sécurité. 9 femmes et un homme, les faits remontent à l'an dernier. Un premier procès alors que l'IGPN, la police des polices, a reçu 12 autres plaintes. Procès suivi par France Bleu Lorraine Nord, Cécile Soulet.
Le médecin inspecteur a voulu faire bonne figure en arrivant à l'audience au bras de sa femme, mais très vite il est mis sur le grill. Quel est l'intérêt de toucher les seins, demande très directement le président du tribunal. C'était pour dépister des signes pathologiques, je suis consciencieux, répond sans se démonter le docteur, yeux bleus et cheveux gris coupés courts. Derrière lui, les 9 victimes présentes font non de la tête, l'une est en pleurs. Appelée à la barre, une jeune adjointe de sécurité témoigne. Quand je lui ai demandé si je pouvais remettre mon soutien-gorge, il m'a dit non et je suis restée seins nus pendant toute la visite. Tous parlent de gêne, d'humiliation après des palpations sur les seins ou sur les parties génitales pour les hommes sans prévenir. Et les témoignages d'autres médecins accablent le docteur du Grand Est. Déontologiquement, l'accord du patient est obligatoire. Il était aussi le seul inspecteur régional à faire des palpations. On n'est pas là pour du dépistage, sauf en cas d'antécédent, explique un confrère. Le président du tribunal fait remarquer que ces visites médicales de recrutement étaient le dernier obstacle avant la validation du diplôme et que finalement, les futurs policiers n'étaient pas en position de dire non.
Compte rendu d'audience signé Cécile Soulet, le procureur vient de requérir 18 mois de prison avec sursis, l'interdiction aussi d'exercer et une obligation de soins. Au tribunal aussi, depuis hier, Patrick Balkany, le maire de Levallois dans les Hauts-de-Seine, poursuivi avec sa femme pour fraude fiscale et blanchiment, mais Isabelle est toujours à l'hôpital, elle a avalé des médicaments il y a 10 jours. Le maire de Levallois est donc seul à la barre et le procès s'intéresse d'abord aux accusations de fraude fiscale. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
4 millions d'euros oubliés, impôts sur le revenu et ISF sur les années 2009-2015.
Oui, le président a pris 2 heures pour résumer l'accusation. On apprend par exemple qu'il a fallu toute une enquête pour établir que les époux Balkany vivaient bien ensemble au moulin de Giverny depuis qu'ils s'étaient brièvement séparés pour de vrai. En 1995, Patrick et Isabelle faisaient des déclarations d'impôts distinctes et ne payaient donc pas d'impôts sur la fortune. Le maire de Levallois-Perret disait habiter dans sa permanence électorale. Les enquêteurs ont donc interrogé leurs employés de maison et les artisans recrutés pour entretenir cette propriété avec piscine, tennis, 11 chambres et 9 salles de bain. Quand je pense qu'en plein état d'urgence, les gendarmes ont planqué jour et nuit pour nous voir entrer et sortir, avait protesté Isabelle Balkany, qui jugeait ces investigations disproportionnées. L'avocat Éric Dupond-Moretti a interrompt vivement cet exposé. Il conteste à nouveau le déroulé de l'audience. En fin d'après-midi, Patrick Balkany est appelé à la barre. Il décide de lire 2 longues lettres de sa femme au juge d'instruction où elle dénonce un lynchage médiatique et écrit « Nous ne disposons pas du magot » évoqué par les médias. Le président demande aux prévenus « Est-ce que demain vous ferez valoir votre droit au silence ?» Réponse de Patrick Balkany « Après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, sûrement pas. »
Sarah Guibaudot au Palais de Justice de Paris. Merci Sarah. Et puis rien à voir avec ce qui précède, un nouveau record du nombre de détenus dans les prisons françaises, 71 828 d'après le ministère de la Justice, auquel il faut ajouter 12 000 personnes non détenues. La politique et Allez. La République en marche et les Républicains de plus en plus à couteau tiré à 2 semaines des élections européennes. L'attaque du jour vient de Nathalie Loiseau, tête de liste de la majorité. Elle trouve le positionnement de François-Xavier Bellamy très 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 à droite, fin de citation, et elle regrette l'attitude de la droite concernant le Premier ministre hongrois Viktor Orban, avec lequel elle siège à Strasbourg. Une trahison pour Nathalie Loiseau. Au Rassemblement National, je vous le disais en titre, c'est Jordan Bardella qui mène la liste pour le 26 mai, mais c'est Éric Zemmour qui aurait pu être à sa place. En tout cas, Marine Le Pen a proposé une place au chroniqueur très à droite, mais lui voulait la première ou rien, Maxence Lambrecq.
Oui, la tête de liste ou rien d'autre, car Éric Zemmour voulait être aux commandes, pouvoir choisir ses colistiers, garder sa liberté de ton, et c'est justement ce qui a fait peur à Marine Le Pen. En septembre dernier, l'un de ses proches, le député Sébastien Chenu, pousse son ami Zemmour à s'engager. « T'as 60 piges, c'est le moment de te lancer », lui dit-il. « Lâche tes bouquins, passe à l'action ». Le polémiste est alors tenté, reste à convaincre la patronne. Avec Zemmour, tête de liste, on va exploser, Wauquiez et Dupont-Aignan, lui promettent ses amis. Rien de tel pour crever l'écran, rassembler largement. Marine Le Pen écoute, réfléchit, puis tranche. Avec Éric, ce sera une polémique par jour, confie-t-elle. C'est trop dangereux et il n'est pas complètement sur ma ligne. En effet, l'union des droites et le conservatisme, ce n'est pas son créneau. Et Éric aurait pu lui faire de l'ombre dans la perspective de 2022, ajoute un élu du RN. Toujours est-il qu'ils déjeunent ensemble en novembre. Elle lui propose la 3e place, il refuse. Tant pis, Marine Le Pen est aujourd'hui ravie d'avoir joué la sécurité avec le fidèle soldat Jordan Bardella. Elle lui a d'ailleurs demandé demain d'incarner le gendre idéal lors du débat télé face à Nathalie Loiseau.
Les premières conséquences des difficultés économiques d'Auchan. Le groupe nordiste affiche une perte nette d'1,145 milliard d'euros l'an dernier. Alors il vend presque toutes ses enseignes en Italie. 1600 magasins dans le cadre de sa stratégie de redressement. Difficulté aussi pour la société de production de Luc Besson, Europa Corp, placée en procédure de sauvegarde pour au moins 6 mois, le jour donc de l'ouverture du Festival de Cannes.
Il s'appelle Station F à Paris ou H7 à Lyon.
Oui, l'incubateur géant de start-up du numérique qu'est Pera, dans le 2e arrondissement, dans le quartier de la Confluence, inauguré ce soir dans une ancienne usine. 40 entreprises sont déjà installées. Elles seront le double en septembre pour 350 postes de travail. Visite des lieux avec Christophe Vincent.
Dans cette ancienne chaudronnerie nichée entre l'autoroute A7 et des immeubles futuristes, on pourrait se croire dans un campus californien avec partout des trentenaires penchés sur leur ordinateur portable. Marie Esquelis, la directrice du site.
C'est le plus grand lieu de vie dédié aux entrepreneurs à Lyon. Ce qui manquait à Lyon, c'était de pouvoir accompagner des startups dans leur phase de croissance et d'accélération. Donc nos critères, c'est quand même des startups qui ont déjà une traction commerciale, qui ont validé leur marché, qui ont envie d'être les pionniers d'une aventure humaine et puis qui ont du rêve dans les yeux.
Financé par la métropole et la région, H7 héberge des entreprises de secteurs variés, éducation, santé, lutte contre le gaspillage. Ici, elle bénéficie d'experts. Guillaume Lafont a fondé Combo, qui conçoit des bâtiments dits bas carbone.
L'intérêt, c'est l'échange, c'est le partage. Même si on n'est pas sur les mêmes secteurs, on partage parfois les mêmes clients. Il faut qu'on soit crédible vis-à-vis de ces acteurs. Il faut qu'on soit visible, donc être au même endroit et serrer les coudes, c'est forcément un gros plus pour pouvoir accélérer.
Ces jeunes gens disposent d'une cuisine, de salles de détente et d'une terrasse entourée de camions-restaurants où conjoints et enfants les rejoignent pendant midi. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
L'agence France Presse porte plainte à son tour auprès de la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, à propos du fichier de Monsanto, dans lequel figurent des journalistes, pratique inacceptable pour l'AFP. Le Monde, Le Parisien, France Télévisions et Radio France notamment ont saisi la justice ou la CNIL dans ce dossier. Le fabricant de l'herbicide ou au glyphosate, Roundup, vient par ailleurs d'être de nouveau condamné aux États-Unis par un couple de septuagénaires atteints d'un cancer. Monsanto devra leur verser 2 milliards de dollars, de quoi plomber encore un peu plus les comptes de son propriétaire, l'allemand Bayer, et donner espoir à ses détracteurs, comme Marion Nguyen de l'ONG Campagne Glyphosate Paris, l'une des organisatrices de la manifestation anti-Monsanto qui aura lieu samedi dans la capitale. Elle est ici au micro de Célia Kiré.
Ça nous donne beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, il y a plus de 13 000 plaignants aux États-Unis. On a une cascade de procès, ça pourrait vraiment mettre fin finalement à Bayer, dans le sens où l'action en bourse prend vraiment un coup avec ses condamnations multiples. C'est-à-dire que si aujourd'hui Bayer était revendu, il pèserait moins en bourse que le prix du rachat de Monsanto. C'est-à-dire qu'avant le rachat de Monsanto, Bayer était à peu près à 130 milliards d'euros. Aujourd'hui, il n'en vaut plus que 54 milliards, sachant qu'il a racheté Monsanto à 56 milliards.
Elle était prévue cet hiver, mais elle est reportée. Elle a été reportée pour cause de crise des gilets jaunes. La hausse des tarifs régulés de l'électricité se précise pour le mois prochain, plus 5,9% en juin.
Le climat semble se réchauffer entre Washington et Moscou.
En tout cas, les chefs de la diplomatie des deux pays se parlent et franchement, et de tout à Sotchi en ce moment. La rencontre entre Trump et Poutine devrait bien avoir lieu au prochain G20. Pour le reste, et sans préjuger ensuite du rendez-vous qui est prévu ce soir dans le bureau du président russe. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Sébastien.
Deux pays occupent leur conversation et on commence par l'Iran.
Oui, absolument. Et sous des abords très courtois, cette seconde visite de Mike Pompeo en Russie a beaucoup tourné tout de même jusqu'à maintenant autour des mises en garde quand même de la Russie à l'encontre des États-Unis. Et évidemment, le dossier du nucléaire iranien est arrivé en haut de la pile. Sergueï Lavrov a redit à son homologue américain que, comme les Européens, la Russie combat les mesures américaines contre Téhéran. Et le ministre russe des Affaires étrangères a rappelé que l'Iran appartenait déjà à une région très conflictuelle et qu'il fallait faire très attention car, précisé Sergueï Lavrov, on ne doit pas prendre des décisions graves sans réflexion en privilégiant d'abord la force, qui n'est pas selon lui une solution pour régler la question du nucléaire iranien, et cela quand bien même Mike Pompeo avait dit au préalable ne pas vouloir fondamentalement la guerre avec l'Iran.
L'autre pays qui cristallise l'attention de Moscou, Claude, comme de Washington d'ailleurs, c'est le Venezuela.
Oui, et là, Mike Pompeo a d'emblée demandé à la Russie de cesser de soutenir Nicolas Maduro, qui, a dit le chef de la diplomatie américaine, n'a rien fait d'autre que d'apporter la misère au peuple vénézuélien. Et là aussi, écoutez, nouvelle mise en garde de Sergueï Lavrov. On ne peut pas imposer la démocratie par la force. Et les menaces contre le pouvoir de M. Maduro, les menaces des représentants officiels des États-Unis et les menaces de M. Guaido, qui rappelle en permanence la possibilité de demander une intervention militaire étrangère, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Voilà, Sergueï Lavrov est allé même, Sébastien, jusqu'à faire le parallèle entre le Venezuela et l'Irak, en rappelant à Mike Pompeo ce qui est arrivé là-bas quand les États-Unis ont voulu, dit-il, installer leur démocratie par la force.
Claude Brouillot en direct de Moscou, merci Claude. Et Sergueï Lavrov dit aussi qu'il ne voit que fiction dans les accusations de collusion entre le président américain et la Russie. La France s'inquiète des actes de sabotage de navires dans le Golfe. 4 bateaux, dont 3 pétroliers, visés au large des Émirats Arabes Unis. Des actes préoccupants, a dit Édouard Philippe tout à l'heure à l'Assemblée, alors qu'aujourd'hui ce sont des installations pétrolières qui ont été visées, cette fois par des drones qui ont touché à un oléoduc stratégique de la région de Riyad, attaque revendiquée par les rebelles houthis pro-iraniens au Yémen voisin, où les Saoudiens aident le pouvoir dans sa guerre contre les insurgés.
On termine avec des nouvelles d'Arthur Rimbaud.
C'est ça, le poète qui était aussi photographe lors des dernières années de sa vie, qu'il passe dans l'actuel Yémen et en Éthiopie. On connaît 7 de ses clichés, dont 3 autoportraits, mais il y en a peut-être 3 de plus. En tout cas, le musée Rimbaud de sa ville natale de Charleville-Mézières en montrera 10 à partir de samedi. Alexandre Blanc.
Un paysage et 2 scènes de la vie des provinces éthiopiennes avec des enfants prises en 1887 alors que Rimbaud chemine avec l'explorateur Jules Borély. Mais quant à savoir lequel des deux a pris les photos, le commissaire de l'exposition Hugues Fontaine ne peut pas encore être affirmatif.
Ce dont on peut être sûr et qu'on peut dire de manière formelle, c'est que en mars 1892, un savant autrichien sérieux écrit dans un registre qu'il a signé le nom de Rimbaud en face de 3 images. Ça, c'est un fait historique avéré.
C'est d'ailleurs en consultant les registres de cet ethnographe, Philippe Paulitschke, à Vienne, qu'Hugues Fontaine a mis la main sur les 3 clichés. Mais il y a un mais.
Ces photos-là sont faites 2 ans après que Rimbaud ait vendu son appareil. Donc, elles sont faites avec un autre matériel.
Alors, Rimbaud aurait-il emprunté l'appareil à Jules Borély?
Elles sont faites tandis que Rimbaud chemine avec Jules Borély, qui lui-même fait des photos. Et les 3 négatives de ces photos-là sont présentes dans le fonds Jules Borély qui est aujourd'hui à Paris.
Un fonds déposé plus tard en 1907 et qui ne mentionne plus Rimbaud. Alexandre Blanc, France Bleu Champagne-Ardenne pour France Inter.
Qu'elle soit de lui ou pas, ces photos sont en tout cas donc visibles dans l'exposition Rimbaud photographe à partir de samedi et jusqu'au 13 octobre au musée Rimbaud de Charleville-Mézières.
Et comme ça c'est dit, Sébastien Paour pour le journal. Merci beaucoup Sébastien, regroupez-vous et on se retrouve demain. Nous on reste ensemble pour le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous, sous le soleil ou pas tout à fait en fait.
La météo avec Air France et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas, donc encore du soleil, mais un temps instable entre les Alpes du Sud et la Corse cette nuit.
Il y a effectivement un mais. Oui, dès ce soir, les averses vont devenir de plus en plus fréquentes, voire même orageuses sur l'extrême sud-est du pays. Et la nuit sera même assez bien arrosée, y compris sur le littoral de la Côte d'Azur. Cette instabilité sera en plus associée à une masse d'air froid. On va donc revoir de la neige à assez basse altitude, des 900 mètres sur la Corse et 1300 mètres sur le sud des Alpes. En Corse, la matinée sera encore émaillée d'averses, puis le ciel va s'éclaircir progressivement par le nord. Il faudra quand même s'attendre à des averses dans les hauteurs l'après-midi. En Provence, les averses déborderont vers l'est des Bouches-du-Rhône demain matin avant de partir en mer avant la mi-journée. Mais partout ailleurs, le temps sera nettement plus calme et la journée sera à nouveau baignée de soleil.
Et moins de vent aussi d'ailleurs.
Oui, la bise qui était sensible va tomber demain, mais dans la vallée du Rhône, le Mistral va continuer de souffler jusqu'à 60 km/h en rafale. Côté température, les maximales seront stationnaires sur le nord, en légère baisse sur le sud. Prévoyez 15 degrés à Bar-le-Duc, 17 degrés pour Cherbourg, Valenciennes et Calvi, 18 degrés à Lyon, Paris et à Cannes, 21 degrés pour Quimper, La Rochelle et Carpentras, 22 à Narbonne, 23 à Bordeaux et on ira jusqu'à 24 degrés à Albi et à Pau.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.